Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le médicament n'est pas un produit comme les autres.
Hein, moi je vous parle de vrai doping, celui qui gagne les records avec et tout. Hein.
Mal utilisé, il peut être dangereux.
De braves jeunes drogués tombent dans le cyclisme.
Il contient des substances actives qui ont des effets sur votre organisme.
J'ai gagné.
T'es sous antibiotiques?
Les médicaments, ne les prenez pas n'importe comment.
Bon, hé, hey, alors mettons qu'ils arrêtent. On aura l'air malin devant nos téléviseurs en attendant qu'ils battent les records. Hein.
Comprimé, vous pouvez faire des 100, il sera votre meilleur atout durant votre entraînement. D'ailleurs, plus besoin d'entraînement.
Moi je dis qu'on est des gens qui s'entraînons et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré.
Alors il est désormais le grand favori de l'US Open après les éliminations surprises de Carlos Alcaraz et de Novak Djokovic. Yannick Sinner semble intouchable, le numéro 1 mondial, empêtré avant la quinzaine new-yorkaise dans une affaire de dopage, pourrait remporter son deuxième grand chelem de la saison. Mais si c'était le cas, pas sûr que l'image du tennis en sorte renforcée. La musique qui fout les jetons et cette question. Faut-il souhaiter la défaite de Sinner? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Jérôme Pinault?
Oui.
Pascal Duprat?
Non.
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste tennis, Anthony Reich. Bonjour Anthony.
Salut les grandes gueules.
Alors comment l'Italien déjà a traversé cette première semaine à New York, après la polémique évidemment?
Et évidemment, il est arrivé sur la pointe des pieds à New York, Yannick Sinner, pour son tout premier entraînement. L'Italien a été très bien accueilli par le public, recevant une belle ovation lors de son entrée sur le atturage qui était ouvert pour l'occasion, ce qui a dû le rassurer. Et puis le numéro 1 mondial a dû ensuite passer devant la presse, une première prise de parole très attendue depuis l'éclatement de l'affaire, où il a clamé évidemment son innocence après s'être tout de même séparé d'une partie de son staff. Il a fallu ensuite aller sur le terrain et la compétition. Une entrée en lice au premier tour en mode diesel où Yannick Sinner, d'abord fébrile, a perdu le premier set face à McDonald. Une victoire qui a dû le soulager, à la suite de laquelle il a à nouveau remercié le public qui l'avait très soutenu pendant cette rencontre. Depuis, la machine s'est mise en route, plus aucun set perdu. Le voilà en huitième de finale. En toute discrétion, il répète à l'envi qu'il reste dans son coin. Sinner est désormais l'ultra favori, tu le disais Jean-Christophe, de cette US Open après les éliminations de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.
Merci beaucoup Anthony, tu restes avec nous pour quelques précisions s'il y a besoin évidemment durant ce débat. Faut-il souhaiter la défaite de Sinner désormais à l'US Open? Tu parlais de sa première conférence de presse, bah justement je vous propose de l'écouter sur, on va dire, sa nouvelle réputation ou prétendue réputation. L'Italien, on l'écoute.
En ce qui me concerne, je crois que j'ai continué à jouer au tennis parce que, dans mon esprit, je savais que je n'avais rien fait de mal. J'ai toujours eu l'intention d'être un joueur loyal. Évidemment, cette affaire pourrait changer certaines choses, mais ceux qui me connaissent très bien savent que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre des règles. Je sais qui sont mes amis et qui ne le sont pas. Mes proches savent que je ne ferai jamais ça et ils se serrent les coudes. Pour ce qui est de la réputation, nous verrons au fil du temps, parce que ça, je ne peux pas vraiment le contrôler.
Eh oui, ne peut pas forcément le contrôler, même si c'est vrai que l'accueil du public a été plutôt bon. Faut-il souhaiter sa défaite? Tu dis oui, Jérôme, pourquoi?
Oui, parce que ça va encore une fois, ça va ternir l'image du tennis, et surtout, c'est pour moi un garçon qui ne devrait pas être là. Moi, j'arrive d'un sport où le dopage est un vrai problème. Pour moi, cette histoire est rocambolesque, et faire au moins l'impasse sur ça pour éclaircir les choses. Comment tu peux, toi, virer ton staff en disant, mais moi je joue au tennis parce que je sais que j'ai rien fait, mais tu les as virés quand même, les mecs. Ensuite, le tennis a quand
parce
même.
Parce qu'ils ont commis une erreur.
Le tennis a le don de nous inventer des cas positifs, non positifs. Rappelez-vous Richard Gasquet à la cocaïne en ayant embrassé quelqu'un en discothèque. Du rarement vu, du quasiment jamais vu. Et c'est toujours la même chose en fait. C'est dès qu'on touche à une star du sport, que ce soit dans ce sport-là ou dans un autre, il y a toujours une bonne excuse. C'est-à-dire que là, c'est le masseur qui avait pris, mais qui l'a massé en ayant un doigt coupé. C'est le steak haché de Alberto Contador pour les 0-0-0. Ils dominent, ils sont les plus forts, mais quand eux, ils sont dopés, il n'y a pas de problème. Ça jette surtout le pauvre et un vrai doute sur les performances de ce type. Et moi, je pense que de lui-même, si. Il aurait dû déjà se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision ensemble. Je vais à l'US Open, avant d'y aller, je vous vire, et je vais jouer, je vais gagner le tournoi. T'es pas crédible. Quoi qu'il arrive, t'es pas crédible. Tu mets une sale image sur ton sport. Déjà que le tennis en a pas besoin. je pense que c'est le coup de trop. Rappelez-vous, il y a Simona Halep, il n'y a pas si longtemps, qui a été blanchie par le tribunal arbitral du sport. Moi, dans ces cas-là, je pense à des garçons comme Franck Bonamour, par exemple, qui, lui, est aujourd'hui suspendu par suspicion de produits, de prise de transfusion sanguine, avec une anomalie dans son passeport biologique, qui, lui, ne peut plus exercer son métier, alors qu'on n'a jamais détecté de produits dans son corps. Et un autre, qui est numéro un mondial du tennis, il faut bien le dire, c'est le tennis, lui nous explique qu'il a été massé, et donc, non, mec.
C'est pas nous qui l'a expliqué, c'est une commission qui l'a blanchi.
Ouais, et qui va bien dans le sport. Je peux te dire que s'il fait du vélo, il a beau essayer de te dire les mêmes arguments, ça va pas passer.
Je sais pas, enfin.
Écoute,
pourquoi on devrait souhaiter sa défaite.
Je
comprends pas non plus.
As-tu les preuves?
Il s'est défendu, il a proposé des choses, il a expliqué comment ça avait pu se passer. On a trouvé une quantité infime de ce produit dans son corps. Donc tout pareil, c'est plausible pour la commission. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du dopage.
Et puis on sait que les commissions sont hyper neutres, il n'y a pas de
souci. Oui, mais à partir de là, soit tu es suspendu 2 ou 4 ans, soit tu n'as rien.
Évidemment,
il a été blanchi.
Il a rendu le prize money et compagnie, mais il n'a pas été suspendu.
Mais c'est logique. Tu sais pourquoi ? Et je vais t'expliquer pourquoi il a rendu le prize money. Parce que quand il a fait la compétition, il avait dans son organisme une substance qui était dopante.
Interdite.
D'accord ? Donc à partir de là, on invalide ce tournoi. Sauf que, comme l'explication est venue après, on ne peut pas le suspendre, vu qu'il s'est défendu par rapport à ça. Donc le prize money est enlevé logiquement, parce que c'est la règle du dopage. Et là, je sais que tu ne peux pas me contredire. Mais par contre.
Pas présent dans l'organisme, hein ? Mais toi tu parles d'un produit qui n'était plus présent. Donc il a été positif à un produit présent. Donc on lui enlève son prize money. Mais une fois que le produit est plus présent,
il est tout... ça n'a aucun rapport. C'est la manière dont le produit est arrivé dans son corps sur lequel il s'est défendu.
Et là vous y arrivez sur le.
Ben encore une fois, si on n'y croit pas, faut arrêter de croire au sport, faut arrêter de regarder du sport.
C'est pas du sport, c'est du dopage.
Oui,
il faut plutôt s'en prendre aux instances qui sont chargées de définir si effectivement le sportif est dopé ou non.
Est-ce qu'en tant que spectateur passionné de sport
est-ce que ça change quelque chose pour toi ?
Bah ça change. Ah bah oui, moi ça me gêne qu'avec.
Depuis des décennies.
C'est dans ce cas-là, c'est pas la faute de Sion. Dans ce cas-là, faut l'interdire de jouer et c'est tout.
Bah oui.
S'il joue, pourquoi on souhaite qu'il perde ? S'il joue.
Ah non, mais évidemment parce que la question elle est posée comme ça. Mais si tu me dis est-ce qu'il aurait dû participer au tournoi ? Je te dis non plus.
Oui, mais il aurait dû suspendre. Tu aurais dû suspendre. Sauf que la commission a décidé. Tu es qui, Jérôme, pour décider que cette commission n'a pas le droit de revenir sur sa décision ?
Grâce à ces studios, on peut aussi s'exprimer. Moi, je te dis que j'ai pas confiance non plus dans toutes les commissions. Moi, je te dis
c'est ça le problème. Donc, faut arrêter en fait.
Bah, faut pas arrêter.
Juste pour le niveau.
Je suis intimement persuadé que dans mon sport, lorsqu'on arrive à un certain niveau de très haute performance, commission, elle n'a pas le même œil que sur les petits coureurs.
D'ailleurs, les joueurs de tennis s'en sont plaints. Ils sont dit, on n'est peut-être pas tous logés à la même enseigne. Je précise juste ma question. Faut-il souhaiter la défaite de Sinner ? On parle de l'image du tennis, évidemment.
C'est pour ça que moi, j'ai dit oui.
Il était seul dans son canapé et mettre des petites aiguilles dans une poupée. Vous voyez, c'est juste pour l'image du tennis.
Mais c'est bien quoi qui joue ? Tu penses, toi, que le tennis global joue contre lui, alors ?
Moi, je pense que si Sinner gagne ce tournoi, tu rajoutes de la suspicion à la suspicion. Ça, c'est une certitude. Je te dis pas qui.
Ça voudrait dire que c'est le seul vilain petit canard, alors ?
Alors, Pascal, contrôlé deux fois positif.
Pascal, je te dis un truc.
Deux fois.
Moi, je peux te dire, j'ai vécu l'avant et l'après Contador, par exemple. Après, toutes ces victoires ont été entachées de suspicion et n'ont pas soulevé les mois comme celles d'avant. Il a une histoire. Il fait un anévrisme, il est opéré, il revient, il est au top niveau, il domine, il embête Armstrong. Ça a fait plaisir à tout le monde. Il est positif à la nandrolone. Je peux te dire qu'après, c'était plus du tout les mêmes émois. C'est pas du tout les mêmes émotions.
Juste Pascal, une précision d'Anthony Reiss et je te donne.
Pascal, en fait, il y a deux choses dans le cas Sinner. Il y a le deux poids de mesure. C'est la première fois depuis des années qu'on a un cas de dopage, ou en tout cas de suspicion de dopage, où autant de joueurs s'expriment de façon ouverte en disant on se fout de nous. Et moi, je suis Simona Halep, je suis Mikael Ymer, le Suédois qui a aussi été suspendu pendant un an parce qu'il avait eu des problèmes de no-show. Derrière, eux, ils n'ont pas joué pendant des mois. Simona Halep, on ne l'a pas vu à Roland-Garros pendant un an. Et après, elle a dû batailler pour retrouver des wildcards. Elle avait perdu son classement alors que c'est une ancienne numéro 1 mondiale. Donc, tu ne peux pas faire.
Mais il y avait des explications sur les no-shows ? Parce qu'en fait, si t'as pas d'explication, là,
Simon Alep, c'était pas un no-show, c'était une histoire de contrôle positif. Le no-show, c'était pour Mikael Hümer, qui était un joueur suédois, mais d'accord, de moindre importance.
Oui, mais
il a été suspendu à titre provisoire pendant un an.
Sauf qu'il a pas été contrôlé, il a pas apporté une explication s'il avait été contrôlé dopé. Alors que là, t'es en train de me parler de quelqu'un qui a fait un no-show, donc qui ne s'est pas présenté. Donc t'as 99% de chance qu'il ait été dopé.
Simon Alep, c'est le même qu'Axineur. Simone Alep, c'est le même qu'Axineur. Oui. Et elle a été suspendue.
Anabolisant, oui, c'est ça.
Je suis complètement d'accord.
Et donc là, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu fais deux poids de mesure. Donc, et surtout, tu révèles une affaire plusieurs mois après le traitement du dossier.
Moi, je veux bien entendre ce que vous dites. Mais par contre, ce que je ne peux pas entendre, c'est tout le doute qui entoure cette affaire. Il y a énormément de choses un peu troubles.
Oui, mais c'est justement ça
le problème. Au moment où le mec est numéro un mondial. Les faits sont là. Enfin, à un moment donné, il faut le mec il vire son staff. Alors oui, ils ont fait une erreur, d'accord. Mais le produit, il est là, il est positif. Il a été suspendu deux jours entre le 8 et le 11 avril.
Non, mais Jérôme, par rapport à son staff, il est obligé de le virer. Il peut pas considérer.
Oui, ils ont fait une erreur.
L'explication qu'il donne, il faut pas garder le staff.
Le staff, il faut pas le virer quand l'affaire devient publique. Si tu sais que tu as eu ça, il le sait lui depuis un moment qu'il a eu le contrôle positif.
Depuis mars dernier.
Tu vires ton staff direct.
En termes de com, c'est plus intéressant.
Ben oui, mais en termes de com, donc justement, s'il gagne ce tournoi, je ne souhaite pas la défaite, mais s'il gagne ce tournoi, il jettera encore un peu plus le doute sur ses performances.
Ok,
ben
alors, Pascal,
si je veux bien vous suivre, ça ne change rien qu'il ne gagne ou qu'il le gagne ou qu'il ne le gagne pas. Ça ne change rien puisque, en fait, Jérôme, ton jugement est définitif. Alors moi, je dis simplement une chose, c'est que Sinner, il s'est défendu. Parce qu'il a le droit de se défendre et qu'il y a des commissions qui ont jugé que ce qu'il disait était recevable, tout simplement. Donc, à partir de là, il y a présomption d'innocence. C'était donc quelque chose qu'il a pris alors qu'il n'en avait pas l'intention. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il me semble qu'il faut que les instances qui sont chargées de contrôler le dopage, eh bien, arrêtent, donc trouvent les subterfuges pour arrêter de laisser place à l'interprétation, tout simplement. C'est ça le souci.
Ça, il y a peut-être. Je te le confirme, Pascal.
C'est valable pour ton sport aussi, évidemment. Bah oui, parce que n'importe qui regarde le Tour de France, il se pose des questions. Si tant est qu'il a fait un peu de sport dans sa vie, même si ça n'a pas été une star de son sport, quoi. Tu dis comment les types y font, quoi. Certains, comment font-ils?
Non, mais pour reprendre des minutes. Le débat plus élargi, c'est quoi? C'est si les instances avaient un peu plus de sérieux et avaient un peu plus d'engagement sur la sanction et sur la recherche. On aurait un peu plus de facilité à expliquer certaines performances.
Absolument.
Là aujourd'hui, on parle d'un cas.
Et ça nous aiderait, nous passionnés.
Là, je te parle d'un cas aussi où vous êtes obligé de me rejoindre sur le fait qu'il y a quand même ce contrôle. Il a donné des explications, mais ça, évidemment, on en fait un débat. Donc c'est bien qu'il y a doute, c'est bien qu'il y a un vrai problème. Et les tennismans entre eux, pour en avoir parlé un peu avec Sarah aussi, ont des doutes et sont pas contents que le mec soit là. Et ils disent tous il y a deux poids deux mesures
je reprends la main.
Deux poids deux mesures
pour les joueurs de tennis, mais c'est également dans le cas dans les autres sports où il n'y a pas les mêmes instances qui évidemment régissent le dopage. Il y a 3 ans, je vais vous conter une histoire. Il y a 3 ans, ça va t'intéresser, Fred. C'est un basketteur italien. Il s'appelle Riccardo Moraschini. Il a été contrôlé positif à la même substance que Yannick Sinner et comme son compatriote, il a été contaminé par un spray contenant du clostébol. Lui, il a été suspendu 1 an, alors que Sinner, vous le savez, il a été innocenté. Il faut savoir que l'ATP s'appuie, elle, sur un organisme indépendant, alors que la Fédération italienne de basket est soumise à la juridiction du Tribunal national antidopage italien. Et ce tribunal national a mis déjà 3 mois et demi à reconnaître la thèse de la contamination, tout en condamnant le basketteur à 1 an de suspension, le minimum requis par le règle antidopage intérieur. Donc déjà, il y a du deux poids, deux mesures, évidemment, entre les tennismans, évidemment, entre les sports. Donc
C'est l'uniformité, c'est bien ça le problème.
Et maintenant, écoutez un tennisman, Hugo Humbert, c'était cette semaine au micro d'Eric Salio.
C'est la façon, en fait, dont ça a été géré aussi. Dans ce cas-là, il ne fallait pas le dire, tu vois, j'aurais préféré qu'on ne le dise pas. Ça met le doute aussi à tous les joueurs. Lui, Sinner, il y est pour rien. C'est pas cool, quoi, quand tu vois comment d'autres dossiers ont été gérés et que lui, il a pu continuer à jouer. Et puis, d'un autre côté, ils disent qu'il est blanchi, mais il perd ses points. Et à Indian Wells, c'est un peu bizarre. C'était un peu décevant pour les joueurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal pris. Ouais. Tous les joueurs en ont parlé. Et puis, c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait aussi perdre, je trouve, confiance aussi en ton sport. La façon dont c'est géré, tu te dis, bon, il y en a qui sont un peu plus protégés que d'autres.
Et c'est pas un sentiment isolé, celui d'Hugo Humbert.
Non, faut savoir que dans le tennis, le circuit professionnel, c'est un tout petit monde. Ils se connaissent tous. Mm-hmm. Dans tous les vestiaires des grands chelems, ils se voient toutes les semaines sur les gros tournois. Je peux vous dire que Yannick Sinner, là, quand il a dû arpenter pour les premières fois les couloirs de l'espace players, des joueurs, ça a dû être difficile. Hein. Ça, il y a eu énormément de réactions. Lucas Pouille, à notre micro, au moment de l'éclatement de l'affaire, il était en colère, comme d'autres, comme Nick Kyrgios, comme Denis Shapovalov, le Canadien.
Ça voudrait dire que c'est un cas isolé ? Moi, c'est ça la question. Ça voudrait dire, moi, je défends plutôt la thèse à ce moment-là. Si vous me dites que Sinner, il est dopé, pourquoi que lui, alors ? Il doit y en avoir certainement beaucoup d'autres.
C'est pas la thèse qu'on soutient. La thèse, c'est plutôt de se dire sur l'image du tennis, comment ça peut se passer avec une victoire de Sinner. Parce que, hasard ou coïncidence, le moment où Sinner éclate au grand jour, son premier grand chelem, je rappelle que c'est en Australie en 2024, son premier, hein. Premier, alors ça fait 2-3 ans qu'on en parle dans le circuit, mais c'est son premier grand chelem. Il gagne après Indian Wells, il commence à gagner des Masters 1000, il va peut-être gagner un deuxième grand chelem en un an.
Il devient
numéro 1 mondial au moment de ça.
Au moment où il est contrôlé, alors on n'a pas de preuves ou quoi que ce soit, mais au moment où il est contrôlé, factuellement, on sait qu'il va être numéro 1 mondial. Puisque c'était prévu par rapport au calcul, le fait que Novak Djokovic ne soit pas forcément présent sur le
mais
circuit.
Mais tout ça pose un problème.
Il ne faut pas arrêter de dire qu'il est peut-être, il a été positif. Il y avait dans son organisme un produit interdit. On est d'accord.
Oui, infime et sert à prendre de la masse musculaire.
Non, voilà. Infime d'une proportion. Il avait infime un produit et avec une explication plausible.
Tout à l'heure, l'histoire de l'Italien, du basketteur. Nous, moi, je vais te raconter quelque chose dans le cyclisme aussi. Il y a une molécule qu'ils ont toujours eu beaucoup de mal à dissocier, c'est-à-dire que après. À beaucoup d'analyses, il y avait, rappelle-toi, ce produit qui existe toujours, le salbutamol. Le salbutamol, c'est un produit que tu peux trouver dans un spray pour les asthmatiques, qu'on appelle la ventoline, ou le Symbicort. D'accord ? C'est la même molécule que le Kenacort, qui te multiplie tes performances. Moi, je veux dire, dans mon sport, on va pas se cacher. Ils sont tous devenus asthmatiques. Parce que tant qu'ils n'ont pas pu aller chercher l'infime produit qu'il y avait, c'était oui ou non. On n'arrivait pas
à doser,
à contrôler le dosage. Donc moi, avec mes vieux réflexes,
je marche à la ventoline. Il y a beaucoup cette excuse dans
évidemment.
Le vélo.
Et moi, je me dis aujourd'hui, quand je vois ce contrôle-là, avec mon vieux réflexe, déformé certainement de cycliste. Fous-toi pas de ma gueule, mec. Voilà ce que je me dis. Il a une toute petite dose. Mais comme Alberto Contador, dose.
C'est là qu'on a
moi,
pas la même vision. Moi, ce que je vois quelqu'un qui a eu un contrôle antidopage, effectivement, sur lequel il a été positif. Mais qui a
double
été expliqué.
Positif, hein.
Qui est double positif. Double et qui positif. a été excusé, entre guillemets, par une commission qui est apte à le faire. Et de mon point de vue, il n'y a plus rien. Le dossier est clos.
Et pour en revenir à ce que tu disais dans le vestiaire, alors, la bonne nouvelle, si. Il rase les murs et que les autres ne lui parlent pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que moi, j'ai aussi assisté à l'après-affaire Puerto dans le vélo. Il n'y en a pas un qui était fâché contre le mec qui nous l'avait fait à l'envers. Ils étaient plutôt tous très contents.
Oui, mais
l'histoire a raconté après que la cinquantaine de coureurs qui étaient contents, ils étaient tous chez le même médecin. Donc
oui, mais ma question, c'est ils ne sont pas contents pourquoi ? Ils ne sont pas contents parce que c'est un mec qui se dope ou ils ne sont pas contents parce qu'il y a deux poids, deux mesures et que lui,
les deux,
grâce à ce qu'il a apporté comme preuve, il a été reconnu non coupable.
Non, mais quand Fred, quand tu es dans un milieu, tu es comme moi, au sein d'un milieu, moi, s'il y a un mec qui revient sur une course, qui a trouvé une espèce bidon, mais qui est au top niveau, on sait qu'il peut être éventuellement. Avec les instances, ça peut passer. Le mec qui vient, il me redomine. Mais moi, j'ai pas envie de lui dire bonjour. Mais c'est pas
je vais répondre à ta question. Je réponds à la place d'Hugo Humbert et je parle sous contrôle d'Anthony Reich, hein, qui le connaît largement mieux que moi. Hugo Humbert, et comme d'autres joueurs de tennis, ils doivent avoir un peu les boules parce qu'ils se disent, moi, si je suis dans le même cas, je pense que je ne fais pas l'US Open. Et la deuxième chose, c'est que quand tu aimes ton sport... t'as pas envie d'avoir ce genre d'affaires qui éclate et parce que tu te dis c'est hyper mauvais pour nous.
Et tu vois, on est rendu et ce qui est frappant chez Hugo Humbert, ce qu'il dit, on s'est regardé quand il l'a dit, j'aurais préféré que ça sorte pas. Et là, quand on en arrive là, attention danger.
On terminera là-dessus avec cette phrase en suspens. Voilà, on a envie de dire.
Dans le vélo, moi j'ai peur qu'il y a certaines choses qu'on ne dit plus, mais c'est pas pour ça que ça va mieux.
On reste là-dessus. 11h26. Merci beaucoup Anthony Reich d'avoir été avec nous évidemment sur rmcsport.fr. Vous suivez l'évolution de l'US Open. Il n'y a plus de Français, il n'y a plus Alcaraz, il n'y a plus le Joko, mais il y a encore Yannick Sinner.